Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce carnet de région, votre magazine d'actualité régionale proposé par les radios de l'ARA. Au sommaire de ce carnet de région, des pharmaciens en colère, des agriculteurs cherchant à reconquérir des terres agricoles, l'association France-Palestine Solidarité qui se mobilise pour demander la libération d'un jeune avocat franco-palestinien, le plus beau laboratoire du monde, le don du sang à l'heure d'Halloween et des jumelages pour s'ouvrir aux autres cultures.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Alors que le week-end dernier s'est tenu à Montpellier le Congrès national des pharmaciens, le nombre d'officines ne cesse de diminuer chaque année. Rien que l'année dernière, on comptait 188 officines qui ont fermé leurs portes. Aujourd'hui, sur le territoire national, 21 400 pharmacies sont présentes. Même si l'on ne peut parler de désertification pharmaceutique, le président du syndicat des pharmaciens du Grand Sud, Frédéric Abécassis, reste inquiet, et notamment sur les difficultés de la profession. C'est ce qu'il a confié à Cédric Combé de RCF Maglonero.
Aujourd'hui, la difficulté majeure de la profession de pharmacien, c'est qu'on vend des médicaments qui ont un coût et que l'assurance maladie a un déficit. Et que quand on parle déficit assurance maladie, on parle systématiquement et on associe systématiquement le coût de l'assurance maladie au coût des médicaments. Ce qui n'est pas totalement exact. Ce qui fait que régulièrement, les prix des médicaments baissent. Et les prix des médicaments baissant et la rémunération des pharmaciens du réseau pharmaceutique étant liée au prix des médicaments, celle-ci diminue, ce qui fragilise un réseau qui aujourd'hui fonctionne. Il n'y a pas de déserts médicaux, de déserts pharmaceutiques alors qu'il y a des déserts médicaux. On a des pharmacies qui font des services d'astreinte, de garde et de permanence de façon cohérente et efficace. On a un réseau qui marche bien et on nous demande de plus en plus de choses. On nous demande d'accompagner les patients, on nous demande donc de prendre part au suivi vaccinal. Et d'un autre côté, on nous enlève de la ressource. Donc la principale difficulté est une difficulté économique. Chaque fois qu'il y a une baisse de prix, le contre-coup se ressent dans les officines. Il faut savoir qu'il y a un médicament qui valait 30 il y a 4 ans, il vaut aujourd'hui 5 ou 6. Donc les prix ont énormément chuté et c'est très compliqué de faire face à cette baisse des prix. C'est pour ça que depuis quelques années, on s'est engagé dans une modification de la rémunération du réseau pharmaceutique. Et les pharmaciens veulent non plus être rémunérés par rapport au prix des médicaments, mais ils veulent être rémunérés par rapport à l'acte pharmaceutique et à la plus-value que les pharmaciens amènent lorsqu'ils dispensent une ordonnance, plus-value qui inclut le suivi de l'ordonnance, les conseils associés et la bonne utilisation, l'observance thérapeutique, la bonne utilisation du médicament par le patient.
Alors vous l'avez dit, de nombreuses pharmacies ferment chaque année. L'an dernier, par exemple, ce sont pas moins de 188 officines qui ont fermé leurs portes. Mais sur le territoire, il en reste quand même plus de 20 000. Pour être très précis, on a le chiffre, 21 400 sur le territoire. Pourquoi ces fermetures de ces 188 officines? Comment on explique cela?
Il y a plusieurs raisons. Il y a le problème économique. Donc là, effectivement, à un moment, il y a un seuil de rentabilité quand on ne peut plus atteindre, comme toutes les entreprises, on est obligé de fermer parce que la rentabilité diminue due aux baisses de prix de médicaments et les charges continuent à augmenter. Les salaires augmentent, les charges en général augmentent, les impôts augmentent, donc tout augmente. Et si les entrées diminuent, il faut savoir qu'une pharmacie est liée à 80 à 90% au prix du médicament remboursable. Donc quand le médicament remboursable diminue, bien évidemment, ça fragilise le réseau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la désertification médicale. Et souvent, quand les officines ferment, c'est parce que les médecins ne sont plus là. Et une officine dont le médecin qui était à proximité est parti en retraite et n'a pas été remplacé, c'est une officine qui voit son chiffre d'affaires souvent diminuer de 30%. Aujourd'hui, même dans des départements comme les nôtres, qui sont pourtant cités comme étant des départements attractifs, on se retrouve dans certains endroits avec des médecins qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. Donc les officines, dernier rempart, dernier point de santé sur un territoire donné, se retrouvent en situation économique difficile du fait du départ du médecin.
C'était un reportage de Cédric Combé pour RCF Maglonero. La semaine dernière en Lozère, la Chambre d'agriculture, les jeunes agriculteurs, la SAFER et la FDSEA se sont réunis pour parler du manque à gagner des agriculteurs lozériens dû à l'enfrichement progressif du territoire. Pour le carnet de région, Corentin Bousquet de 48 FM s'est rendu sur place.
En 150 ans, le boisement du territoire lozérien a été multiplié par 9, ce qui veut dire que les parcelles agricoles représentaient 94% du département en 1860 et seulement 45% aujourd'hui. Mais cette déprise se poursuit encore de nos jours où chaque année, près de 1000 hectares de surface agricole sont perdus sur l'équivalent de 11 exploitations agricoles moyennes. Alors que la solution semble évidente, la reconquête agricole n'est pas une mince affaire. Éric Chevalier, président de la SAFER.
Ce qui est difficile, c'est la remise en culture de certaines parcelles au travers du défrichement, puisque la loi impose maintenant pour les parcelles boisées la compensation. Alors qu'est-ce qu'on entend par compensation? Soit l'agriculteur donne 4000 euros qui va à un fonds, 4000 euros de l'hectare, soit il reboise à surface identique. Mais c'est pas une solution envisageable pour nous, puisque lorsque l'agriculteur demande le défrichement, c'est pour avoir plus de fourrage sur son exploitation. Et si c'est pour aller replanter ailleurs, le gain, il est nul, quoi.
Les dispositifs législatifs ne tiennent pas compte de la spécificité de la Lozère. D'après Pierre Morel à l'huissier, les lois doivent s'adapter.
Et on assimile à forêt des choses, des terrains, des cultures qui ne sont pas représentatives de forêt. C'est toute la problématique aujourd'hui de savoir ce que l'on peut défricher et ce qu'on ne peut pas défricher. Donc on a une tendance aujourd'hui à laisser faire spontanément la végétation spontanée. Et quand cette végétation est installée, on vous dit c'est une forêt. Non, c'était un terrain naturel, un terrain agricole qui s'est embroussaillé. Donc là, il y a une simplification et une amélioration des textes à apporter.
Pour commencer, le député de la Lozère a déposé une nouvelle loi qui vise à clarifier l'état actuel d'un terrain.
Oui, j'ai déposé « ne seront considérés comme bois que ce qui a été toujours classé d'un point de vue cadastral, bois ». Tout le reste, landes, terres, espaces qui ont pu se boiser dans le temps ne sont pas des bois. Voilà. Donc déjà ça va régler bien les problèmes. Et ensuite, il faut obtenir du ministère de l'Agriculture une instruction qui tienne compte de la spécificité de notre territoire.
Julien Tuféry, président des jeunes agriculteurs de Lozère, nous parle des bienfaits de cette reconquête agricole.
Le sujet, il est plus global. Hein. On a plusieurs sujets dans le défrichement. Le premier, c'est de reconquérir des terres agricoles, d'augmenter la qualité des paysages, de diminuer les risques d'incendie, d'augmenter la biodiversité, de diminuer les achats de fourrage extérieur et de concentré pour les agriculteurs. Donc tout ça, c'est bien dans un aspect de triple performance, écologique, économique et sociale. Je crois qu'on répond à tous les enjeux de ce que la Lozère doit répondre dans les années à venir. L'augmentation de la population lozérienne et puis régionale, je crois que c'est un problème qui est beaucoup plus global que celui de nettoyer un champ ou un autre. C'est un problème qui est beaucoup plus large et qui doit intéresser toute la population. Et les lozériens doivent être à nos côtés parce qu'il en va de leur intérêt aussi.
Et pour montrer l'intérêt de cette reconquête agricole, les entrepreneurs et producteurs agricoles ont défriché une parcelle communale de pelouse cultivée du seigle. Le fruit de la récolte l'an prochain sera donné à l'association caritative lozérienne de Saint-Vincent-de-Paul.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Un don du sang ou un sort, c'est la formule choisie par l'établissement français du sang à Montpellier, Béziers et Nîmes. Pendant 2 semaines, il propose des collectes sur le thème d'Halloween. Le but, attirer de nouveaux donneurs rares pendant les vacances de la Toussaint, car il faut en moyenne 15 dons par jour à Montpellier pour répondre aux besoins. Les sites de collecte ont été décorés pour l'occasion. Un reportage de Thomas Lauré à l'antenne de Montpellier.
En entrant dans le hall d'accueil, une chose est sûre, l'atmosphère n'a rien d'habituel. Alessandra Luchez, chargée de communication à l'EFS, nous sert de guide.
Évidemment, il y a des citrouilles, du noir un peu partout, d'effrayantes araignées très poilues qui tombent du plafond et des toiles d'araignées un peu partout.
Le but de cette opération Halloween, c'est aussi de dédramatiser l'acte du don.
On surfe sur les clichés associés à cette fête pour montrer que c'est quand même des personnes en bonne santé qui sont accueillies. Tout ça se fait dans une ambiance conviviale. pluviale, c'est un geste que tout le monde peut effectuer.
Lundi prochain, une journée particulière et festive sera proposée au donneur avec plusieurs surprises.
En plus de la traditionnelle collation, il y a des bonbons, des soupes au potiron et aussi des petits cadeaux typés Halloween.
Danielle, elle, n'a pas eu besoin de cette opération pour venir donner son sang.
Ce qui m'a motivée, c'est l'envie de faire profiter de mon sang à d'autres personnes.
Danielle salue tout de même l'initiative. L'établissement français du sang de Montpellier se donne jusqu'à la fin des vacances pour montrer que le don du sang, eh bien, c'est loin d'être sorcier.
C'était un reportage de Thomas Lauré pour RCF Maglonero. Depuis 20 ans, la ville de Frontignan dans l'Hérault mène des projets de jumelage avec l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Historiquement, des citoyens de ces trois pays sont venus s'installer à différents moments dans cette ville au bord de la Méditerranée. Ne pas oublier son identité et toujours apprendre à vivre ensemble sont les motivations des élus pour investir dans ces jumelages. Fin septembre, Sabine Schurmann, maire adjointe déléguée à la culture et au jumelage, est allée en Italie à Gaeta afin de rencontrer des élus, des associations, des établissements scolaires, car se voir se rencontrer est indispensable à la vie de ces jumelages. L'été dernier a eu lieu la fête des jumelages à Frontignan, temps fort pour les croisements entre toutes ces cultures. Sabine Schurmann revient sur l'importance de ces actions de jumelage.
Si on reprend ce qu'on a pu faire cet été dans le cadre de la fête des jumelages, qu'on a pu faire aussi dans le cadre de la fête d'Europe, de l'Europe, où les quatre associations de la ville, en lien, j'allais dire, avec les origines des habitants, ont créé ensemble tout un buffet, ce qu'on a créé, c'est déjà la rencontre. La rencontre entre des associations qui, en fait, valorisaient leurs propres origines, qui ne représentaient jamais qu'une partie de la population actuelle de la ville. Et ça, ça me semblait extrêmement important. Déjà, apprendre à se connaître, à partager, se rendre compte qu'on utilise à peu près les mêmes produits lorsque l'on cuisine, même si on les travaille de façon différente. C'est l'échange de pratiques, c'est arrêter d'avoir peur de l'autre. Bon, ça, c'était le premier objectif. Objectif atteint. Il y a une telle entente qu'aujourd'hui, la demande des quatre associations, c'est de créer une soirée ensemble. Et non pas la soirée des Portugais, la soirée des Italiens, la soirée des Espagnols, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont envie de montrer en quoi le fait de valoriser sa culture d'origine n'est pas un facteur d'exclusion des autres. C'est un facteur nécessaire à la survie d'une partie de soi, mais en même temps, il y a une volonté de partage et de faire connaître à l'autre et de faire tomber des représentations. Viens, je vais te raconter. Voilà. Je vais te raconter qui je suis, comment je mange, pourquoi je vis de telle façon, etc. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Je veux dire, réaliser des jumelages, c'est très facile, comme le disait Rosemonde. En bas d'un papier, on peut tous y apposer une signature. Les faire vivre, c'est une autre histoire. Et leur donner du sens. Et dans l'actualité qui nous préoccupe, c'est un vrai challenge. Et je fais partie plutôt des personnes qui aiment bien relever les challenges.
Et de retour d'Italie, un projet de rencontre entre collégiens est en cours, également la venue d'un chef cuisinier italien à Frontignan. La ville travaille aussi sur un projet de rapprochement avec le Maroc, car effectivement aujourd'hui une partie de la population frontignanaise est originaire de ce pays du Maghreb. Un nouveau jumelage qui pourrait voir le jour prochainement. C'était un sujet d'Isabelle Bourdet de Radio Pays d'Hérault. Jean-Claude Lefort, président honoraire de l'association France-Palestine Solidarité, était la semaine dernière à Alès dans le cadre d'un Tour de France qu'il a entamé afin de demander la libération de Salah Hamouri, jeune avocat franco-palestinien arrêté le 23 août dernier, chez lui à Jérusalem-Est. Salah Hamouri est bien connu en France car il fut emprisonné en Israël de 2005 à 2011 sous une accusation de complot d'assassinat jamais prouvé. À l'époque, l'association France-Palestine Solidarité avait lancé une campagne de solidarité en sa faveur. 6 ans plus tard, Salah Hamouri est à nouveau emprisonné, cette fois-ci sous le régime de la détention administrative, un régime d'emprisonnement de 6 mois renouvelable sans motif ni accès à son dossier classé secret, une détention arbitraire pour Jean-Claude Lefort.
Salah Hamouri, de naissance franco-palestinien, n'a ni la citoyenneté israélienne, ni la nationalité palestinienne. Il a en tout et pour tout qu'une carte de résident de Jérusalem. Cela implique qu'en termes de nationalité, il n'en a qu'une, c'est la française. Donc nous avons, du fait de cette annexion qui est condamnée au plan international, et par la France également, Donc nous avons un compatriote français, avocat de surcroît, qui se trouve détenu arbitrairement en Israël, et nous voulons, comme pour tous les cas identiques qui sont produits sur la planète, que les autorités françaises agissent pour la libération de Salah Hamouri. Salah Hamouri a été arrêté le 23 août, c'est-à-dire 3 jours après qu'il ait prêté serment d'avocat au barreau de Ramallah par les forces armées israéliennes, sur la base de ce qu'on appelle une détention administrative signée par le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui associe de particulier, c'est une mesure qui date d'ailleurs du mandat britannique, qui permet de mettre en prison sur la base d'un dossier auquel vous n'avez pas accès, classé secret, une personne en prison pendant 6 mois renouvelables à l'infini, sans possibilité d'avoir accès à ce dossier. C'est ce qu'on appelle l'arbitraire.
Et l'association France-Palestine Solidarité demande au président Emmanuel Macron d'intervenir en faveur de Salah Hamouri, comme celui-ci l'a fait récemment en faveur du journaliste Lou Bureau.
Nous avons, au bout quand même d'un mois et demi, alors que nous avions alerté tout de suite les autorités françaises de la situation, le président Macron avait protesté et agi avec fermeté et obtenu gain de cause à propos d'un compatriote français interné en Turquie qui s'appelle Lou Bureau, au titre qu'il appartenait à une organisation terroriste. Nous avons obtenu la libération à juste titre de Lou Bureau et nous en sommes très contents. Et donc, par le parallélisme des formes, nous sommes dit bon que le président ait décidé à aider tous les Français en situation difficile au niveau international. Sur le cas de l'arbitraire, évidemment, il ne s'agit pas de parler d'autre chose. Donc il a fallu du temps avant qu'il se réveille et qu'on soit reçu. Donc nous avons été reçus par le conseiller adjoint du Sherpa du président, accompagné d'ailleurs de l'avocat français de Salah Hamouri. Nous avons eu une très longue discussion au terme de laquelle nos arguments et notre exigence de libération immédiate et sans condition de Salah Hamouri n'ont pas été rejetés. Mais pour l'heure, tandis que ça fait maintenant 15 jours que nous avons eu ce rendez-vous, pour l'heure, aucune action concrète à notre connaissance n'a été entreprise. Parce qu'il devait nous informer de mécanismes d'intervention qu'ils avaient décidé de faire, nous ont-ils dit. Mais dès lors qu'il n'y a pas de retour, je peux considérer qu'il n'y a pas d'intervention.
Des propos recueillis par Yves de Fagot pour Radio Grille Ouverte. Un matin, place de la mairie à Florac en Lozère, deux hommes en blouse blanche triturent des alambics et rendent le quotidien fascinant. Dans le cadre de la semaine de la science en Occitanie, Fabrice et Stéphane sont venus parler du plus beau laboratoire du monde, le quotidien, la vie quoi. Un reportage d'Eliott Ratineau pour Radio Bartas.
Moi quand j'étais petit, je voulais être fakir. Hein ? Et je me demandais comment les fakirs peuvent tenir sur des planches à clous. Alors je me suis dit, je vais faire l'université de fakirologie. Bon, il n'y en a pas. Mais imaginez qu'il y ait une université de fakirologie. Eh bien, en fait, voilà à quoi elle ressemblerait. Il y aurait les journées portes ouvertes, avec des planches à zéro clou. Et on a tout le monde qui a envie de s'inscrire en fakirologie, puisque c'est facile. Ouais. Et puis après, il y a la première année, avec un clou. Et puis après, chaque année, vous avez de plus en plus de clous. Jusqu'à obtenir 63 clous, vous êtes doyen de la fac, par exemple, fakirologie. Et là, on constate que le ballon n'éclate pas sur les 63 clous. Comment ça fonctionne ? Ben, c'est tout bête. Quand vous avez la force qui s'applique sur la surface d'un tout petit clou, vous avez une pression énorme. Et par contre, quand vous avez 63 fois plus de surface, vous pouvez appuyer 63 fois plus fort pour obtenir la même chose. Nous, on a commencé dans les années 2000. Et depuis, ça n'a fait qu'augmenter. C'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Maintenant, c'est vrai que ça reste quand même soit des gens, et il n'y a pas aucune critique à ça, mais des professionnels qui sont un peu spécialistes et qui sortent un peu des laboratoires et qui ont de la peine à communiquer, même s'ils ont envie. Ce n'est pas leur métier. Et puis, de l'autre côté, il y a des communicants, mais qui ne connaissent pas forcément la science. Donc, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est être scientifique et être communicant. Et ça, c'est vrai que je ne veux pas nous jeter des fleurs, mais il n'y a quand même pas énormément de gens qui font ça. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve partout dans le monde à faire ce genre de choses. Il a une surface énorme sur laquelle il s'appuie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il mange 40 millions de saucisses Et comme il s'enfonce pas, il conclut qu'il doit pas faire régime alors qu'il a un bidon comme ça. Il y a un petit laboratoire qui est le laboratoire de vulgarisation. Il y a les petits tests qu'on fait, toutes ces choses. Mais la vraie recherche et le vrai renseignement, c'est quelque chose qu'on a été obligé de délaisser. Maintenant, c'est aussi important de montrer aux gens que le plus grand laboratoire du monde, c'est lequel? C'est la vie, c'est l'univers, c'est chez soi. Cette planche qui a 63 clous, c'est pas mal confortable, mais imaginez que j'augmente le nombre de clous. Et encore, et encore, et encore. Au bout d'un moment, j'ai 1 milliard de millions de clous dans la même surface. Ça devient un bloc de ferraille. C'est aussi confortable que quand il y en a zéro. Eh ben, c'est ce que j'explique à mon banquier qui ne comprend pas. Quand on a 1 milliard de millions de milliards ou zéro, c'est un peu pareil. Ben, il comprend rien à la physique. Puis la dernière chose, c'est le côté recherche et développement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des clients qui nous demandent de continuer à faire de la recherche et développement dans des choses très appliquées. Et au passé de la science hyper fondamentale comme on avait nous dans le labo à des choses très très appliquées. Par exemple, je vous dis, un chocolat, il y a un très grand chocolatier qui me demande et qui me dit j'aimerais développer de nouveaux chocolats. Comment je peux faire? Eh ben, comprenons de manière physico-chimique le chocolat et vous allez voir qu'on va le révolutionner, votre chocolat.
Voilà donc pour ce carnet de région, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.